Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur la première lecture que nous entendrons dimanche prochain, faite du Saint-Sacrement. Elle est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 24, les versets 3 à 8. Un mot de contexte, le peuple a été mené par Moïse jusqu'au Sinaï. Ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte, ils ont échappé à Pharaon en passant la mer Rouge, et voici qu'ils sont devant la montagne où l'alliance va être scellée. Le Seigneur avait appelé Moïse en haut de la montagne, lui a donné les paroles de l'alliance, et Moïse est redescendu et il va s'adresser au peuple. Lisons le texte. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, avec le reste du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Fin de la lecture. Remarquons qu'il y a une double exposition des paroles de l'Alliance. Le peuple d'Israël a entendu une première fois Moïse exposer toutes les paroles du Seigneur, et il les a reconnues comme paroles du Seigneur, le témoignage de Moïse est reconnu comme paroles du Seigneur, et puis une nuit va passer dessus, et Moïse, ayant mis les paroles par écrite, va lire le livre qu'il a écrit, et la proclamation du livre est reconnue aussi comme paroles du Seigneur. Il est intéressant de remarquer que la parole du Seigneur est reconnue tout autant dans la bouche de Moïse qui parle que dans la proclamation du livre de l'Alliance que Moïse a écrite. En quoi cela est-il important? C'est que la proclamation du livre de l'Alliance pourra être reconnue comme parole du Seigneur au-delà de la vie même de Moïse. Quand un autre proclamera cette parole, on la reconnaîtra encore comme parole de Dieu. L'accessibilité de la parole du Seigneur ne se réduira pas à l'étendue de la vie de Moïse. Remarquez que nous vivons cette même réalité pendant la messe, quand après les lectures nous disons « parole du Seigneur » ou quand après la proclamation de l'Évangile on dit « acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus ». On reconnaît la parole du Seigneur à travers la proclamation du livre de l'Alliance. Remarquons que du temps a été accordé entre l'écoute de la parole et le moment où l'Alliance sera effectivement scellée. Le peuple n'est pas pressé de se déterminer immédiatement, il va entendre cette parole, il va pouvoir dire son avis positif, mais ce n'est que le lendemain où il entend à nouveau cette parole, et là, cela donnera lieu au scellement de l'Alliance. Le temps de la réflexion est donné, le temps du discernement est offert. On n'est pas du tout dans la logique du bonimenteur qui nous charme et essaie de nous emporter avant qu'on ait eu le temps de réfléchir. Deuxième élément que l'on peut remarquer, lorsque le peuple, à la deuxième fois, entend Moïse proclamer le livre de l'Alliance, il répond un peu différemment que précédemment, où il reprend « tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique », mais il ajoute « nous y obéirons », ou on pourrait dire littéralement « nous l'écouterons ». Or, cet ordre-là est un peu étonnant parce que, instinctivement, on aurait eu envie de dire tout ce que le Seigneur a dit, nous l'écouterons et ensuite nous le mettrons en pratique. Or, ici, c'est inversé, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons, nous l'écouterons. Cela signifie que l'alliance avec le Seigneur n'est pas d'abord une histoire, on pourrait dire, de concept intellectuel à maîtriser. L'alliance avec le Seigneur n'est pas une doctrine qu'il faudrait posséder comme on possède sa leçon. La véritable obéissance au Seigneur, la véritable obéissance dans l'alliance, va passer par une expérience de mise en pratique. C'est l'expérience de mise en pratique qui va nous donner une lumière sur la véritable obéissance. Et sans cette expérience de mise en pratique, sans cette expérience du concret et du réel, il y a quelque chose qui nous échappe encore de l'obéissance à laquelle le Seigneur nous appelle. La distinction de la mise en pratique et de l'obéissance est aussi très intéressante parce qu'elle manifeste que l'obéissance ne correspond pas à l'obéissance du robot qui exécute des tâches. Mais le robot fait cela de façon mécanique. Il n'y a pas d'implication de sa liberté et de sa volonté. L'obéissance véritable, elle, implique un engagement de notre liberté, de notre volonté dans une adhésion. Et c'est en commençant à faire que tu vas comprendre ce qu'il faut faire. Et ainsi tu vas pouvoir t'engager avec ta volonté et ta liberté dans ce qu'il faut faire. Cette logique, nous pouvons la comprendre par analogie avec des expériences humaines que nous pouvons avoir. Prenons l'exemple des maraudes à la rencontre des personnes de la rue. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait va se demander un peu « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» et va se concentrer d'abord sur le fait d'apporter un café, d'apporter peut-être quelque chose à grignoter, se demander « qu'est-ce qu'il faut poser comme question ?» Et puis, avec un peu d'expérience, il se rend compte que ce qui est au cœur de ces maraudes, c'est la rencontre des personnes, une rencontre qui est un peu unique à chaque fois. Et ce qui le préoccupait au départ, qu'est-ce que l'on peut apporter matériellement, il finit par comprendre que ce n'était qu'un prétexte à une autre rencontre, une rencontre humaine. Et sa façon de se tenir, sa façon d'écouter, sa façon de regarder va se transformer. Par ce qu'il a commencé à faire, il finit par comprendre comment, entre guillemets, obéir, comment faire. Et donc, l'alliance avec le Seigneur, pour la reprendre, va demander de notre part une confiance pour oser faire, alors que nous ne percevons pas forcément toutes les articulations, tous les tenants et les aboutissants. Mais cette expérience va éclairer ce que nous aurons à faire finalement. Alors que sans cette expérience, cet éclairage nous demeurera étranger. Posons maintenant notre regard sur un autre élément de l'épisode, la façon dont l'alliance est scellée, le signe de la réalisation de cette alliance avec l'aspersion du sang. Avant le rite de l'alliance, il y a eu des holocaustes où des taureaux ont été brûlés entièrement pour être offerts à Dieu. Et puis, il y a eu des sacrifices de paix où l'on a récupéré le sang des taureaux immolés. Une moitié du sang va servir à asperger l'autel qui représente la présence de Dieu, et une autre partie de ce même sang va être aspergée sur le peuple qui a donné son consentement à l'alliance. Quel est le sens de ce signe ? Pour le comprendre, je voudrais l'opposer à un autre signe d'alliance que l'on voit dans la Bible, où l'on pouvait couper un animal en deux, et où on faisait passer les deux contractants de l'alliance entre les parties séparées de l'animal. Le signe dans ce cas-là signifiait « si je trahis l'alliance que nous avons scellée, qu'il m'arrive le même sort que ces animaux coupés en deux ». C'était un rite où il y a une menace qui pèse sur celui qui trahirait l'alliance. Ici, ce n'est pas le cas. On ne passe pas entre deux parties d'animal pour dire qu'il m'arrive le sort de cet animal si je ne suis pas fidèle. Le signe est que le même sang est aspergé sur l'autel qui représente Dieu et sur le peuple qui s'engage. Or, le sang est le symbole de la vie. On est en train de dire que, à travers cette alliance, c'est la même vie qui unit le Seigneur et son peuple. C'est la même vie qui unit le Seigneur et son peuple. C'est en fait quelque chose de très fort et de très intime qui est manifesté ainsi. Nous pouvons y voir là un indice de la réalité du salut que le Seigneur veut pour nous. Le salut que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas simplement une vie naturelle un peu meilleure que la vie que nous connaissons affrontée aux affres de la maladie et de l'adversité. Le salut que le Seigneur veut pour nous, c'est un partage de la même vie. C'est finalement le partage de sa vie. Ce signe ouvre à la compréhension que le salut que Dieu veut pour nous, ce n'est pas une super vie naturelle, mais c'est le partage de sa propre vie divine. Et c'est ce que le Christ vient accomplir, justement. Lui qui va nous donner sa propre vie, justement, pour que nous soyons nourris de sa vie. Ce ne sera plus le signe du sang des animaux, mais ce sera le signe efficace de son propre sang, de sa propre vie, qui nous est donné non plus extérieurement, l'aspersion du sang, mais intérieurement, son sang nous est donné comme vraie boisson, son corps nous est donné comme vraie nourriture. Voilà que la vie de Dieu se donne à nous pour que nous puissions vivre avec Dieu. Jésus accomplit ce qui était signifié au Sinaï. L'accomplissement de l'alliance, c'est quand la vie divine devient notre propre vie. La contemplation de cet épisode du Sinaï et le don par le Christ du sang véritable de l'alliance nouvelle et éternelle nous amène à réfléchir et à réviser l'espérance que nous avons. Notre espérance est-elle à la hauteur de ce à quoi Dieu nous appelle? Avons-nous bien compris qu'il nous appelle à partager sa propre vie, l'intimité de sa vie? Ou bien en restons-nous à une espérance un peu païenne qui essaie d'amadouer le Seigneur pour obtenir quelques faveurs? Que cette lecture nous aide à rehausser notre espérance et à oser mettre en pratique l'alliance pour découvrir comment y obéir pleinement. Je vous souhaite de bons échanges.